singulière, si singulière que nous sommes très heureux d'avoir ce soir, de recevoir ce soir Léa Weinstein pour nous donner un éclairage sur sa vie, sur son œuvre et également sur la destinée rocambolesque de ses manuscrits. Puisque Léa Weinstein donc, a fait une thèse sur Kafka et elle a écrit un livre que vous avez peut-être lu qui s'appelle « J'irai chercher Kafka, une enquête littéraire donc à la recherche des manuscrits ». Donc, Léa Weinstein est autrice. Elle a écrit plusieurs essais. Vous en trouverez deux en bas, la signature après la conférence, donc celui dont je viens de parler. Et également, Il suffit d'écouter les femmes. C'est un recueil qui est paru en janvier 2025 sur les témoignages des femmes qui ont avorté avant 1975 à l'occasion du cinquantenaire de la loi Veil. Donc, Léa Weinstein est autrice, elle est également documentariste, elle réalise des émissions de radio pour Arte et pour France Culture. Et donc, nous l'applaudissons très fort.
Merci Béatrice et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de voir que Kafka, visiblement, est encore un peu vif. Il bouge encore, vu que vous êtes nombreuses et nombreux ce soir. Je suis impressionnée par le dispositif parce que je fais des émissions de radio, mais donc je ne suis pas comédienne. Et là, j'ai l'impression de me retrouver dans un dispositif. Et je salue Alan, grâce à qui je suis éclairée ce soir et grâce à qui vous pouvez... voir aussi les images que j'ai préparées. J'ai préparé donc une sorte d'itinéraire comme ça pour vous et avec vous ce soir, un petit peu en deux temps. Pourquoi est-ce que j'ai intitulé cette soirée « Une vie de papier » Parce que, comme le rappelait gentiment Béatrice, le livre que j'ai fait paraître au mois de mars dernier, il y a un an, qui s'intitule « J'irai chercher Kafka » et qui donc a été publié dans le cadre du centenaire de la mort de Kafka, raconte, comme vous l'entendez dans le titre, raconte un voyage que j'ai fait sur les traces de ses manuscrits, d'où le papier. Donc l'idée est d'essayer de vous montrer ce soir comment, à travers ses manuscrits, cet homme, cet écrivain, qui est mort en 1924, continue d'exister, de nous habiter et surtout continue de produire des histoires jusqu'en 2024. C'est pour ça que vous voyez apparaître ces bornes-là. 1883, c'est l'année de sa naissance. 2024, ce n'est pas évidemment l'année de sa mort. Mais vous verrez que voilà, c'est une histoire ce soir qu'on va reparcourir et qui va vraiment jusqu'au présent. À travers le parcours de ces manuscrits et je pense que le parcours de ces manuscrits nous dit quelque chose de son œuvre elle-même, de ce qu'elle contient comme mystère, comme question aussi, sans réponse, je préfère vous prévenir tout de suite, mais en tout cas des questions qui s'ouvrent à nous avec beaucoup d'acuité, beaucoup de résonance. Franz Kafka, je pense que on peut commencer par dire que c'est l'un des écrivains, des plus grands écrivains du XXe siècle, que c'est un des seuls écrivains, à ma connaissance, à nous avoir légué, outre son œuvre, un adjectif, puisqu'on parle, on dit que quelque chose, qu'un événement, qu'une circonstance est kafkaïen ou kafkaïenne, et on le dit en dehors de son œuvre. On le dit pour parler de l'étrangeté d'une situation ou bien de la façon dont une administration peut nous tyranniser et nous angoisser. Donc il a laissé une trace et notre langue en porte justement l'écho à travers cet adjectif. Alors pourquoi ces traces? D'où ça vient? Est-ce que ça peut nous aider de repartir de sa biographie, de sa vie. Donc, comme vous le savez, il y a une très grande entreprise biographique de Franz Kafka qui a été entreprise il y a quelques années par un biographe allemand qui s'appelle Rainer Starr et qui a donc fait paraître une biographie en 3 tomes très, très, très complète sur la vie de Kafka qui est mort à 40 ans. Donc, pour pouvoir écrire autant sur 40 ans, c'est vous dire à quel point cette entreprise est détaillée, complète, etc. Moi, comme je l'expliquais à Béatrice, je n'ai pas du tout cette approche-là de Kafka. Je ne suis pas biographe. Je vais simplement vous proposer de reprendre quelques dates comme ça, quelques moments dans sa vie qui, à mon sens, peuvent nous aider à le lire aujourd'hui, puisque c'est quand même vers ça qu'on se tourne, lire ses textes. Juste 2 mots aussi sur le corpus qu'il nous laisse, parce que je ne sais pas bien à quel point vous en êtes familier ou pas. Vous n'êtes peut-être pas tous d'ailleurs dans la même familiarité à l'égard des textes de Kafka ici ce soir. Kafka a laissé d'abord quelques textes de fiction, 3 romans qui ont été publiés en premier, mais de manière posthume, on va y revenir, c'est-à-dire après sa mort. 3 romans qui sont Le Château, Le Procès et L'Amérique. 2 nouvelles que vous trouvez dans différents recueils. L'une des nouvelles qu'on peut citer tout de suite et qui est la plus connue, c'est évidemment La Métamorphose. Il y en a une autre à laquelle je tiens, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui s'intitule Le Verdict. Et ça, ce sont des textes que Kafka a fait paraître bien souvent de son vivant dans des revues, des courtes nouvelles. Et puis, à côté de ce corpus important de fiction, plus ou moins longue, on a un corpus redécouvert un petit peu plus tard de textes personnels, on les appelle en général, c'est-à-dire son journal, le journal qui tenait au jour le jour avec des périodes d'interruption, des périodes plus ou moins riches, mais son journal qui est un des plus beaux journaux d'écrivains qui soit, à mon avis, et puis sa correspondance qui comprend une correspondance amoureuse, je vais y revenir, donc avec des femmes, et une correspondance aussi amicale, familiale, voilà, que nous redécouvrons, que nous retraduisons depuis quelques années. Donc vous avez voilà, des textes personnels et puis des textes de fiction. Et à l'intérieur de ce corpus-là, peut-être que la vraie distinction n'est pas entre la fiction et la non-fiction, mais peut-être que la frontière se situe plutôt là où lui a souhaité ou pas faire paraître ses textes. Et ça sera un peu le fil rouge de mon intervention. On va y revenir tout à l'heure. Lorsqu'il est mort, assez jeune de la tuberculose, donc à 40 ans, même très jeune, Franz Kafka a laissé un testament demandant à son ami Max Brod de détruire tout ce qui, de lui, n'avait pas encore été publié. Y compris donc les romans dont je vous disais tout à l'heure qu'ils avaient été publiés de manière posthume. Donc, peut-être qu'à l'intérieur de ces textes, il faut réfléchir comme ça. Il faut penser à ceux qu'il a voulu faire paraître. Et en fait, on en a très peu, c'est-à-dire qu'on a quelques nouvelles et c'est tout. Et puis ensuite, il y a tout le continent du Kafka qui est arrivé jusqu'à nous, mais qui n'aurait pas dû arriver jusqu'à nous, ou en tout cas qui est arrivé jusqu'à nous contre sa volonté et à travers une histoire d'amitié sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Alors, je fais cette longue introduction avant de vous proposer, en guise d'introduction prévue, écrite sur mon papier, une petite phrase d'un philosophe qui a beaucoup réfléchi et écrit sur Kafka et qu'on évoquait avec l'un d'entre vous tout à l'heure, je ne vous vois pas bien de là où je suis, mais qui s'appelle Walter Benjamin, et qui a écrit 2 textes merveilleux sur Kafka en 1934 pour le 10e anniversaire de sa mort. Donc assez loin de nous, et qui parle, à mon sens, merveilleusement bien du mystère Kafka. De qu'est-ce qui nous fascine chez Kafka, qu'est-ce qui fait que quelque chose, quand on le lit, nous appelle et en même temps nous résiste tout le temps. Résiste tout le temps à notre compréhension totale, à notre interprétation, etc. Et Walter Benjamin a cette phrase, mais qui était Kafka ? Il se serait creusé la tête toute sa vie pour savoir à quoi il ressemblait lui-même, sans avoir appris qu'il existe des miroirs. Et j'adore cette phrase de Benjamin sur Kafka, parce que comme ça, sous la forme d'une légende qui aurait pu presque être écrite par Kafka lui-même d'ailleurs, à travers ce paradoxe, montre voilà, cet individu qui est aux prises avec tant de difficultés, tant d'impossibilités, qu'il se cherche. Il se cherche partout, mais il ne pense pas à aller en fait à l'évidence du premier outil qui serait à sa disposition pour se voir lui-même, et donc il se chercherait ailleurs, peut-être justement à travers ces textes. C'est ce qu'on va voir. Alors, Kafka est mort il y a 100 ans, 101 ans bientôt, et J'ai été, avec la sortie de mon livre, etc., j'ai été pas mal sollicitée au moment et dans le cadre de ce centenaire. Et au terme de cette année, je continue, moi, de me demander qu'est-ce que c'est que cette distance qui nous sépare de lui, en fait. Est-ce que 100 ans, c'est long ou est-ce que c'est court ? Et plus j'en parle, plus j'ai l'impression, un peu comme dans la légende du miroir de Walter Benjamin, plus j'ai du mal à mesurer justement cette distance. C'est-à-dire que j'ai l'impression, comme je vous le disais tout à l'heure, notamment à travers cet adjectif, à travers ces situations, que Kafka fait partie des écrivains qui existent aujourd'hui, au présent, qui peuvent nous venir à l'esprit, qui ont vraiment cette incarnation, en fait. Et c'est ce que je raconte aussi dans mon livre, la façon dont il peut vous parler quand vous le lisez, dont un dialogue peut se nouer. Donc, il a cette présence qui rendrait le centenaire presque proche de nous. Et en même temps, 1924. Enfin, quand on mesure tout ce qui s'est passé depuis sa mort, dans l'histoire elle-même, bien sûr, dans l'histoire de sa famille, dans l'histoire de ses textes, et dans sa propre trajectoire à lui. Parce qu'au moment de sa mort, donc Kafka est un homme qui est malade depuis déjà longtemps, puisque la tuberculose est une maladie qui lui est diagnostiquée en 1917, dont il a connaissance en 1917 et qui va commencer à beaucoup l'affaiblir. En fait, déjà longtemps, enfin déjà quand même assez jeune et de nombreuses années avant sa mort. Et donc, quand il meurt, c'est un écrivain que personne ne lit. C'est ça aussi qui s'est passé dans ce centenaire, c'est-à-dire que, en fait, il est arrivé jusqu'à nous en partant d'un moment, sa mort, où quelques nouvelles étaient parues dans des revues. Et en fait, il avait, si vous voulez, dans la Prague des années 20, qui est son environnement, je vais y revenir, Kafka est un écrivain qui a une espèce de succès d'estime, on peut dire, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus un illustre inconnu. Il est repéré comme faisant partie de la génération d'écrivains germanophones, qui écrivent en allemand, qui ont un certain talent, mais à l'intérieur de cercles très élitiste, très intellectuel, très pointu. Il n'est absolument pas connu du grand public, personne ne sait qui il est, et d'ailleurs, vous ne trouvez aucune trace quasiment de sa mort dans les journaux, par exemple. Personne ne documente à ce moment-là sa mort. Et donc, ce grand écrivain du XXe siècle a été en fait façonné dans ce centenaire, dans ses 100 ans, qui nous sépare de sa mort, et avec cet énorme paradoxe de départ, qui est que lui, apparemment, ne l'a pas voulu, puisqu'il meurt en laissant, encore une fois, ce testament qui est une demande de destruction de son œuvre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment, en 100 ans, on a pu passer de cet homme qui meurt quasi seul dans un sanatorium d'Autriche à... moi ce soir, vous ce soir surtout, qui venait parler de lui. Alors je vais vous mettre ma première image qui est un portrait que je trouve magnifique de Frédéric Pajac, que vous connaissez peut-être, qui a fait aussi d'ailleurs une très belle biographie dessinée de Walter Benjamin dont on parlait tout à l'heure. Voilà, je trouve qu'on retrouve dans ce regard à la fois l'idée d'un être de papier, puisqu'il est dessiné, mais aussi cet individu qui cherche désespérément qui il est et qui peut-être nous appelle. Alors, ce qu'on va voir aussi en traversant ce centenaire, donc ces 100 ans, et le devenir de cette œuvre, c'est que déjà dans la vie de Kafka, il n'y a pas vraiment de frontière entre sa vie et sa mort. Certainement du fait de cette maladie qui va donc le faire vivre dans la menace en fait, de la mort dès ses plus jeunes années. Mais même dans son rapport à sa propre œuvre, dans son rapport à l'écriture, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours assez étonnée, c'est qu'il se vivait lui-même, vous trouvez plusieurs occurrences de ça dans son journal, par exemple, ou dans sa correspondance avec ses amis, il parlait de lui-même comme d'un mort-vivant. C'est-à-dire qu'il aurait été pas vraiment vivant de son vivant et pas vraiment mort après sa mort, comme si vous aviez cette espèce d'inversion. Et ce que je trouve étonnant, donc, c'est qu'on en trouve des traces comme si lui-même avait cette conscience-là d'un espèce de renversement entre sa vie et sa mort. Alors, je vais vous lire une phrase que lui écrit un de ses amis, qui s'appelle Franz Werfel, en novembre 1915. « Cher Kafka, vous êtes si pur, ingénu, indépendant et parfait, que l'on a envie de vous traiter comme si vous étiez déjà mort et immortel. » 6 ans plus tard, dans le journal de l'année 1921, donc, Kafka, qui a dû retenir, je pense, cet échange avec Franz Werfel, écrit en disant « il », mais qui est un « il » très autobiographique, c'est un procédé qu'il utilise dans tout son journal. Il voit autre chose et plus que les autres. Il est en effet mort de son vivant et le seul vrai survivant. Voilà. Donc, il y a cette dimension un peu à la fois effrayante qu'on retrouve dans son regard et que je trouve que Frédéric Pajac rend encore une fois très bien dans son portrait. Et quand on regarde la postérité de l'œuvre, on peut même affirmer que sa mort, en effet, a constitué une sorte de naissance inversée, puisque l'œuvre a pris vie après sa mort et qu'elle nous est arrivée et nous a parlé. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas été vraiment vivant de son vivant ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Là, je vais... Alors d'abord, il y a la maladie, il y a la jeunesse, enfin, il y a cette mort qui arrive donc très jeune. Mais il y a d'autres choses aussi que son biographe Rainer Starr, pour ceux ou celles qui ont parcouru la biographie, ont retrouvé. Et alors, j'ai trouvé ça assez exceptionnel parce que la biographie commence avec cette idée qu'en fait, Kafka n'a pas eu une vie intéressante et qu'en fait, il n'y a rien à raconter. Donc, ce qui est quand même assez audacieux de la part de quelqu'un qui s'apprête à vous faire 3 tomes quasiment heure par heure sur ce qui s'est passé dans sa vie. Mais donc là encore, vous voyez qu'on retrouve ce paradoxe. Donc, je vous cite cette introduction de Rainer Starr. Une vie, point d'interrogation, mesurée selon les normes hédonistes des sociétés occidentales du XXIe siècle, donc les nôtres, l'existence physique de Kafka offre un bilan proprement accablant. Voilà l'introduction. Alors, il y a la courte durée de sa vie, bon. Il y a une espèce d'échec apparent. Est-ce qu'il a eu des enfants ? Non. Est-ce qu'il s'est marié ? Non. Et ça a été l'objet d'échecs répétés. Et est-ce qu'on peut parler de réussite professionnelle ? Pas vraiment. Alors bon, ça c'est un point qui est aujourd'hui un peu discuté justement par Rainer Starr et d'après les spécialistes. Kafka a fait du droit et il n'écrivait que la nuit, si vous voulez. Il a jamais imaginé une seule seconde pouvoir vivre de son œuvre. Et donc il travaillait dans une compagnie d'assurance et il faisait en fait du droit du travail au sein d'une compagnie d'assurance. Il a beaucoup souffert de son travail, comme vous le voyez dans son œuvre, quand on pense à la façon dont vit l'administration dans son œuvre. Il a souffert au travail et en même temps, apparemment, on découvre qu'il a été assez doué et qu'il a été en fait un très bon défenseur, notamment des travailleurs pour lesquels il défendait les gens avec beaucoup de cœur, notamment dans le cadre des accidents du travail. C'était ça son travail. En tout cas, il a eu des congés, ce qu'on appelle aujourd'hui des congés maladie à répétition à cause de sa tuberculose. Et en fait, les 10 dernières sa vie, il a même arrêté de travailler. Donc on ne peut pas vraiment parler non plus de réussite professionnelle, ou en tout cas d'une réussite relative, dit Rainer Starr à l'allemande. Voilà, une réussite relative où il a réussi à atteindre à la fin de sa carrière un poste de sous-chef de service. Bon. Il l'a toujours fait en tout cas sans passion, par obligation. Et à l'âge de 30 ans, je m'adresse à la jeunesse qui est parmi nous ce soir, il vivait encore chez ses parents. Il n'avait pas vraiment acquis de biens parce que beaucoup de son salaire, qui s'est arrêté assez tôt en plus, a servi à le soigner, en fait, à financer ses innombrables séjours dans des sanatoriums, qui étaient la manière dont on traitait la tuberculose à l'époque, qui était de les envoyer faire des cures dans des sanatoriums. Et c'est pour ça qu'on parle de la mort de Kafka en Autriche. En fait, il a toujours vécu à Prague, et j'y viens. Mais il est mort en Autriche parce qu'il était dans un sanatorium dans les montagnes autrichiennes. Alors, pour comprendre en quoi cette vie a peut-être été limitée, on va dire, je pense que c'est intéressant de s'attarder un tout petit peu sur l'environnement et donc sur cette ville de Prague. Je voudrais juste dresser rapidement un... Je garde un œil sur ma montre. Voilà. Un panorama. Alors, là, vous voyez le jeune Franz Kafka avec ses sœurs. Et, alors, c'est le garçon, du coup. Celui qui est à gauche. Et là, vous avez une idée de la ville de Prague. Bon, voilà, là, c'est l'image que j'ai trouvée. Elle date de 1917. Deuxième citation, décembre 1902. Kafka a 19 ans. Il vient de commencer ses études à l'université allemande de Prague et donc il choisit le droit comme cursus principal après avoir essayé un peu d'histoire de l'art et de littérature allemande. Il est allé visiter une université à Munich, en Allemagne donc, où il a hésité à s'inscrire et finalement il revient à Prague. Et Rainer Starr a retrouvé la première lettre de Franz Kafka que nous avons, qui est une lettre, donc il a 19 ans, il est jeune étudiant et il écrit à l'un de ses amis qui s'appelle Oscar Polak. Et il lui écrit pour lui expliquer que malgré l'attrait de Munich, qui a quand même pour avantage de l'extraire de sa ville et de l'extraire potentiellement de sa famille, il ne se résout pas à quitter Prague. Et donc, première lettre de Franz Kafka, 19 ans, Prague ne nous lâche pas. Cette petite mère a des griffes. Il faut plier ou bien il faudrait y mettre le feu des deux bouts. Alors, on pourrait peut-être y échapper. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de spécialistes de Kafka qui vous diront qu'on ne peut pas détacher Kafka de cette ville de Prague et qu'il y a quelque chose de son œuvre qui ne peut pas vraiment être comprise si on ne revient pas à cet attachement, emprisonnement. Hein. Vous voyez, c'est quand même violent ce qu'il dit. La seule moyen d'y échapper, ce serait de la détruire, en fait. Et d'ailleurs, on retrouvera cette idée-là dans son testament par rapport à sa propre œuvre. La seule façon qu'il va trouver d'échapper à son œuvre, c'est de demander de la brûler. Donc vous voyez que déjà depuis ses 19 ans, il a ce rapport comme ça d'emprisonnement, de volonté d'échapper à quelque chose qui en même temps le retient et qu'il n'arrive pas, vraiment à échapper. Alors Prague... Sans rentrer trop dans les détails, il faut quand même comprendre que du vivant de Kafka, Kafka va vivre ce basculement de l'Empire austro-hongrois, donc Prague étant une sorte de ville de province, en fait une sorte de banlieue de Vienne au sein de l'Empire austro-hongrois. Et puis, Kafka va assister à ce qu'on appelle à ce moment-là la montée des nationalismes, le printemps de Prague, etc., c'est-à-dire la volonté de la part des Tchèques d'avoir leur propre indépendance et de se détacher, eux aussi, de l'hégémonie de cet empire austro-hongrois qui va voler en éclats du vivant de Franz Kafka. Franz Kafka va assister à ça juste avant la Première Guerre. Il y a trois communautés qui vivent à Prague. Et ça, je crois que c'est déterminant aussi pour comprendre le rapport de Kafka, la manière dont il se situe jamais complètement à l'intérieur d'une communauté, mais toujours entre différentes communautés. Vous avez donc les germanophones, ceux qui parlent allemand, et qui sont, en fait, on peut dire... sociologiquement, la population dominante. Si vous parlez allemand, ça veut dire que vous faites partie de l'élite. Franz Kafka, d'ailleurs, va être mis par son père au lycée allemand, et le père va leur parler allemand parce qu'il est dans ce désir très très fort, le père de Kafka, d'ascension sociale. Lui-même est un émigré, si vous voulez, qui est arrivé d'un milieu juif pratiquant rural, le père, qui a fait ce mouvement d'aller vers la grande ville, de devenir commerçant. Donc on passe de la ruralité à une sociologie beaucoup plus aisée. Le père a un magasin à Prague. Et en fait, ils vont devenir de plus en plus... C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des transfuges de classe. Il y a vraiment un changement, une bascule sociologique très importante qui se passe au moment, enfin à la génération du père de Kafka. Donc Kafka, il grandit avec cette famille qui a un très fort désir d'ascension sociale, notamment à travers le père. Et donc le père le met au lycée allemand et va jusqu'à lui parler allemand d'ailleurs. Kafka écrit en allemand, hein, toute l'œuvre qu'on a est une œuvre écrite en allemand. Mais quel allemand ? Voilà, c'est ça que je voudrais juste essayer de poser là comme ça dans quelque part parce que je pense que ça explique un certain nombre de choses et que ça donne aussi un accès différent à son œuvre. L'allemand n'est pas une langue maternelle pour Kafka. En fait, il n'a pas de langue maternelle puisqu'il se situe justement dans cette génération de bascule. En tout cas, à la maison, on parle allemand, mais on parle un allemand qui vient d'être appris, vous voyez. Donc on parle un allemand qui est peut-être un peu étrange, qui est peut-être un peu empoulé, qui est peut-être un peu pauvre en vocabulaire. chose qu'on va retrouver dans le style de Franz Kafka, dont on va dire qu'il a justement cette espèce de pureté stylistique très forte, de simplicité aussi dans sa langue, dans son rapport à l'allemand. Je pense que ça vient de là. Ça vient du fait que l'allemand, qui est la langue du foyer, n'est pas pour autant une langue maternelle, au sens où nous, on a le français comme langue maternelle, en tout cas moi. Donc, première communauté, les Allemands, les germanophones. Deuxième communauté, les Tchèques. Ils ne vivent pas ensemble. Ils ont chacun des entreprises, des lieux de sociabilité différents. Et donc, dans la sociologie, dans le groupe tchèque, on parle tchèque. Le tchèque, Kafka va l'entendre, du coup, énormément, mais ne le parle pas. Enfin, il le comprend, il en a entendu, étant donné qu'il a quand même évolué à l'intérieur de cet environnement-là, mais ce n'est pas du tout sa langue. D'ailleurs, plus tard, il va rencontrer une des femmes avec qui il va avoir une très grande histoire d'amour, qui s'appelle Milena Jesenská, et qui, elle, est tchèque, et ils vont se rencontrer parce qu'elle va traduire une de ses nouvelles en tchèque, ce qui veut dire qu'il n'en était pas capable lui-même. Voilà, tchèque est une langue qu'il comprend, d'ailleurs pour des raisons professionnelles aussi qu'il va devoir manier, mais qui n'est pas du tout sa langue. Et puis, le troisième groupe sociologique qui est assez important à Prague à ce moment-là, c'est la communauté juive. Ce sont les juifs. Alors, vous allez me dire, si vous suivez bien, mais Kafka, il appartient plutôt à ce groupe-là, puisqu'on a parlé de son père et de l'origine de son père. Effectivement. Sauf que Kafka, du fait de cette assimilation et de cette volonté du père de gommer leurs origines, le père, il veut passer pour un Allemand, en fait. C'est ça, il veut être dans l'élite qui a réussi. Et donc, il ne va pas du tout lui transmettre à son fils la culture juive. Il va lui transmettre très peu d'éléments de son judaïsme. Et il ne va pas jamais lui parler la langue que parlait cette communauté, donc troisième langue après l'allemand et le tchèque, le yiddish, que parlaient les juifs à Prague, et que Kafka va apprendre à un moment donné où il va s'y intéresser, que Kafka était en mesure de comprendre, parce que le yiddish est très proche quand même de l'allemand, mais qu'il ne maîtrisait pas. Donc la seule langue que Kafka a à sa disposition en tant qu'écrivain, si vous voulez, c'est l'allemand, mais avec toutes les réserves qu'on vient d'expliquer. Et donc, Prague, c'est ça aussi. Pour un écrivain, grandir à Prague et vivre sa vie à Prague, c'est vivre entre ces trois langues qui se croisent en permanence et qui donc, à mon avis, se patinent forcément les unes les autres. Et donc, gardons ça à l'esprit aussi quand on lit Franz Kafka, qu'on lit évidemment en traduction française, mais vous voyez dans son étrangeté, dans l'étrangeté qui se dégage aussi de son univers, pas seulement de sa langue, voilà, pensons à Prague et à cette étrangeté des trois communautés qui vivaient à la fois ensemble et complètement séparées. Tout ça va voler en éclats avec la première, puis la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas vous raconter, je ne suis pas là pour faire l'histoire de Prague. Mais voilà, en tout cas, pour entendre cette sociologie linguistique qui me semble quand même importante. Et puis, voilà, c'est un écrivain qui a vécu toute sa vie entre trois langues. Et le fait aussi, d'ailleurs, que l'une de ses grandes histoires d'amour se soit jouée avec une tchèque, qui, donc dans une correspondance, ou quand vous voyez la correspondance originale, il passe tout le temps de l'une à l'autre langue. Et donc, le fait qu'elle les traduit en tchèque et que leur histoire d'amour ait commencé comme ça, comme une histoire de traduction est aussi, à mon avis, quelque chose d'important pour avoir accès à l'étrangeté de son œuvre. Voilà Kafka à Prague en 1920, 4 ans avant sa mort. Alors, il y a une expérience qui va se passer une nuit pour lui et qui va changer sa vie, qui va faire basculer complètement sa vie de cet environnement de prison, de difficultés. On entend que les rapports avec son père sont complexes, qu'il a beaucoup de pression en fait, de réussite sociale dans ses études, dans sa vie professionnelle. Et donc, c'est quelqu'un qu'on sent aux prises avec beaucoup comme ça d'impossibilités, comme on l'a entendu dans la phrase sur Prague. Et donc, il va y avoir un basculement, quelque chose dont lui-même va dire que c'est comme une naissance qui l'a vraiment amené à la vie. Et ce basculement, vous me voyez venir, c'est l'apparition de l'écriture dans sa vie. Et donc, c'est l'écriture de l'une de ses premières nouvelles, en tout cas que lui va considérer comme son premier texte. Et ce texte s'intitule « Le verdict ». Ça se passe une nuit, et on le sait parce que lui-même l'a raconté comme vraiment acte de naissance de cet écrivain et comme sortie de cette prison, en fait, qu'on entendait à travers son rapport à Prague. Alors là, on est fin septembre 1912. Vous excuserez mes allers-retours chronologiques, en plus avec les images qui... il a 29 ans. Voilà. Ça nous situe un peu. Il vient de rencontrer chez les parents de son ami Max Brod, sur lequel je vais bientôt revenir, une jeune femme qui s'appelle Félix Bauer. Bon, du coup, spoiler, fiançailles, mais 1917, donc voyez que 5 ans plus tard, il va y avoir une tentative, en tout cas, de fiançailles. Voilà Félix Bauer. Il lui a écrit une première lettre juste après leur rencontre, et c'est cette lettre qui m'intéresse, parce qu'il lui explique qu'en fait, il ne veut qu'une chose dans sa vie, écrire de la littérature. Il lui dit qu'il est prêt à tout sacrifier à cette activité-là d'écrire, mais que chaque ligne de ce qu'il écrit pour l'instant, bon, il a quand même 29 ans, le fait douter jusqu'au désespoir. Pardon. Il dit à Félix Bauer ce soir-là que selon lui, pour l'instant, en fait, il n'a encore rien écrit, rien de valable, mais que depuis quelques jours, depuis qu'il l'a rencontré donc aussi, il tient une idée, peut-être un personnage, le personnage d'un jeune homme qui voit une foule approcher sur un pont au milieu d'une guerre. On est en 1912. Et puis finalement, le dimanche 22 septembre 1912, au soir, vers 22h, il raconte qu'il s'installe à son bureau et qu'il écrit toute la nuit. Le récit qu'il écrit cette nuit-là est finalement différent de ce qu'il avait imaginé avec le pont, la foule, la guerre. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'entretient avec son père. Père qui est jaloux de son fils, extrêmement cruel à l'égard de son fils, et qui va passer toute la nouvelle à rabaisser son fils de plus en plus. Et finalement, à la fin du texte, à condamner son fils à mort par noyade. Ce que le fils va faire à la fin du texte. En sautant d'un pont, justement. Donc, on retrouve. Et donc ce texte-là s'appelle Le Verdict. Et cette nuit-là, Kafka en parle comme un basculement total dans sa vie. Et dès le lendemain, dans son journal, on trouve cet extrait où il raconte à quel point ça a été pour lui un basculement. Cette histoire, Le Verdict, je l'ai écrite d'une seule traite, dans la nuit du 22 au 23, entre 10h du soir et 6h du matin. J'avais les jambes si raides à force d'être assis que c'est à peine si j'ai pu les retirer de dessous le bureau. Le terrible effort et la joie, à mesure que l'histoire se déployait devant moi, j'avais l'impression de fendre les os. Plusieurs fois, au cours de cette nuit, j'ai porté tout mon poids sur mon dos. Comme tout peut être tenté, comme toutes les idées, même les plus étranges, sont attendues par un grand feu où elles disparaissent et renaissent. Comme tout a bleui à la fenêtre. Une voiture est passée, deux hommes ont traversé le pont. À 2 heures, j'ai regardé ma montre pour la dernière fois. Et donc, il y a vraiment cette idée d'une naissance à lui-même qui se passe dans le journal et dans l'écriture à Félice, dans cette double adresse. Donc, il y a quand même quelque chose dans la rencontre avec elle qui va se produire de très fort pour lui. Et c'est à elle que, quelques jours plus tard, Kafka écrit « À l'occasion des corrections du verdict, je mets par écrit toutes les relations qui sont devenues claires pour moi. C'est nécessaire car cette histoire est sortie de moi comme lors d'une vraie naissance, couverte de saleté et de mucosité, et je suis le seul à avoir la main qui peut pénétrer jusqu'au corps et qui en a l'envie. » Donc il y a vraiment cette image d'un accouchement, littéralement, viscéralement, de quelque chose qui sort de lui et qui le fait naître à l'écriture. L'histoire d'amour va donner lieu à, je pense que j'ai le chiffre quelque part, mais à des fiançailles qui vont finalement être rompues, mais surtout à un véritable trafic épistolaire, c'est-à-dire que cette histoire d'amour va se vivre dans l'écriture, en réalité, pour lui. Et c'est lorsque le passage au réel, c'est-à-dire à la potentialité d'une vie conjugale, d'une vie réelle avec elle, va approcher que Kafka va complètement fuir et tout arrêter. Par contre, la possibilité de lui écrire des lettres est devenue vitale pour lui parce que c'est une possibilité d'écrire tout court, en fait. La possibilité de lui écrire à elle devient une possibilité d'écrire tout court. Et donc, en fait, toute la vie de Kafka après ça, jusqu'à sa mort en 1924, il va conserver, alors avec ensuite une autre femme notamment, qui est donc cette Milena Jesenska, mais ça va se vivre aussi dans l'écriture des lettres, avec cette quasi impossibilité de passer à une relation réelle, à l'exception de la toute dernière histoire d'amour qu'il va vivre avec une jeune femme, beaucoup plus jeune que lui, qui s'appelait Dora Diamant, et qui va l'accompagner en fait dans la fin de vie. C'est-à-dire que finalement, elle vit avec lui les tout derniers instants d'un homme malade. Elle l'accompagne au moment de sa mort. Donc, elle va avoir une importance pour le devenir des manuscrits ensuite de ce fait-là. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé, en fait. Dans la proximité de la mort, il y a quand même ce passage au réel qui, avec Dora Diamant, quelques mois seulement, mais qui a eu lieu quand même dans sa vie, qui a donné lieu à un très beau roman d'ailleurs. Si ces derniers mois de la vie de Kafka vous intéressent, je vous conseille un roman d'un Autrichien justement qui s'appelle Michael Kumpfmüller et qui a écrit un très beau livre sur Dora et Kafka dans ses derniers instants, qui s'appelle La splendeur de la vie. Alors je vais un peu plus vite sur les lettres d'amour, dommage, mais il faut que j'avance. Lorsqu'il meurt, donc le 3 juin 1924, Kafka est en train de corriger les épreuves d'une nouvelle qui devait paraître et qui donc va être le premier texte posthume, mais qui devait paraître, qui est une nouvelle que j'aime beaucoup par ailleurs, qui s'appelle Joséphine la cantatrice, que vous connaissez peut-être, et qui est l'histoire d'une souris. Une souris cantatrice, magnifique nouvelle. Souris qui chante, nous dit le texte, devant tout le peuple des souris rassemblés dans des grands spectacles qu'on imagine un peu comme ça dans des théâtres antiques, vous voyez. Donc Joséphine, la souris cantatrice, fait se rassembler les foules qui communient face à son chant, etc. Et puis à la fin, le texte nous dit, mais en fait, son chant est à peine audible, puisque c'est une souris, c'est un couinement. Et pourtant, tout le peuple des souris vient écouter le couinement de la cantatrice. Et il y a quelque chose de très beau dans le fait que ce soit le texte que Kafka corrigeait sur son lit de mort, parce que le dernier effet qu'a eu la tuberculose sur Kafka, c'est qu'il a perdu sa voix. Et donc, il a été dans l'impossibilité de parler. Et il avait justement une forme de couinement. Et lui-même a parlé de ça à son médecin, a dit « Je finis ce texte sur le sifflement d'une souris et moi-même, je suis cette souris qui ne peut plus sortir de mon larynx que des sifflements avant de mourir. » À ses côtés, à ce moment-là, il y a donc Dora Diamant, mais il y a aussi Max Brod, dont on a déjà entendu une ou deux fois le nom, mais que je ne vous ai pas vraiment présenté. Max Brod, c'est l'ami le plus proche de Franz Kafka depuis ses études de littérature, depuis ses 19 ans. Max Brod est quelqu'un qui, lui, ne va pas aller vers le droit, mais va rester dans des études littéraires, qui écrit et qui, de leur vivant, est beaucoup plus connu que Kafka. C'est-à-dire que Max Brod, c'est un peu un écrivain star des cafés de Prague dans les années 20. Il connaît tout le monde, il a ses entrées partout. Et donc, c'est lui qui devient, par son amitié avec Kafka et par le fait que Kafka lui fait confiance et lui fait lire quelques petits bouts de ce qu'il écrit, c'est lui qui devient très tôt on dirait aujourd'hui son agent littéraire, c'est-à-dire qu'il croit en lui tout de suite et il le fait lire à ses amis éditeurs. Tous les textes dont on a parlé jusqu'à maintenant qui sont parus du vivant de Kafka l'ont été par l'entremise de Max Brod, qui lui faisait partie des comités de toutes les revues littéraires, etc. Donc il y avait c'était vraiment par lui que les choses passaient. Et donc, le jour des funérailles de Franz Kafka, Max Brod demande aux parents, qui donc ont enterré leur fils puisqu'il est mort très jeune, demande à Hermann et Julie Kafka s'il peut aller voir ce qu'il y a dans son bureau. Et il a déjà en tête que peut-être il va trouver des textes. Et donc, il a déjà en tête aussi ce désir de faire vivre Kafka après sa mort, tout de suite, dès le jour des funérailles. Et là, dans le bureau, il trouve cette enveloppe que j'ai eu la chance d'avoir entre les mains. À son adresse, donc, avec à l'intérieur ce fameux testament que j'ai eu la chance d'avoir entre les mains aussi, que vous voyez ici, écrit de la main de Franz Kafka, mais j'ai eu l'amabilité de vous le de vous le traduire et de vous le transcrire. Donc voilà ce que Max trouve au moment de la mort de Franz Kafka. Mon très cher Max, j'espère que c'est parce qu'il y a deux versions. En fait, il va trouver deux enveloppes dans le bureau à deux endroits différents. J'espère que j'ai ma dernière volonté, c'est ça ? Oui. Ma dernière volonté, tout ce qui se trouve dans ce que je laisse derrière moi, donc dans la bibliothèque, l'armoire à linge, la table de travail, chez moi et au bureau, ou bien dans quelque lieu où cela aurait été transporté et tomberait sous tes yeux, tout, qu'il s'agisse de journaux intimes, de manuscrits, de lettres écrites par moi ou par d'autres, de dessins, etc., tout doit être totalement brûlé, sans être lu.
Sans être lu.
De même, tous les textes et tous les dessins que toi ou toute autre personne à qui tu devras les demander en mon nom pouvait détenir. S'il est des lettres qu'on refuse de te remettre, il faudra au moins qu'on s'engage à les brûler. Ton Franz Kafka. Il semble pourtant, malgré la force, hein, vous voyez, de cette demande qui quand même ne laisse pas beaucoup de place au doute, il semble que Max n'ait pas hésité une seconde et que la décision de faire exactement l'inverse de ce que son ami lui demande ait été prise tout de suite par Max Brod. Peut-être qu'il l'avait même décidé avant de trouver d'ailleurs ce testament, puisque ce dont il va témoigner par la suite, Max Brod, c'est que c'est une conversation qu'ils auraient eue ensemble du vivant de Kafka. Kafka l'aurait prévenu qu'il allait lui formuler cette demande, et Brod l'aurait prévenu en retour qu'il ne la respecterait pas. Donc voilà, Max Brod va beaucoup s'appuyer sur le fait qu'ils ont eu cette conversation pour présenter son geste non pas comme une trahison, ce qui est quand même la première idée qu'on peut avoir, mais comme au contraire une fidélité extrême à l'égard de son ami et de l'œuvre de son ami que Max Brod a fait vivre. Et si on est là ce soir, 100 ans après, c'est quand même grâce à quelqu'un, et c'est grâce à Max Brod en réalité, qui ce jour-là a décidé de se servir exactement comme un détective utiliserait des indices. Tous les indices que Kafka lui donne dans ces documents-là, Brod va les utiliser pour aller chercher les textes, pour aller dans l'armoire à linge. C'est bien, parce qu'il lui a donné... Alors voilà, on peut discuter, et peut-être qu'au terme d'ailleurs de la conférence, on en discutera ensemble. Moi, je trouve que ce moment-là, de la découverte du testament et de la décision de Max Brod, est infini en termes de questionnement. Je ne sais toujours pas, après avoir écrit un livre entier là-dessus, je ne peux pas vous dire... D'ailleurs, il y a des gens... Quand j'ai eu parfois des interviews, enfin au moment de la sortie du livre, je me souviens notamment d'une journaliste québécoise qui du coup avait un côté très cash comme ça, enfin très et qui me disait mais bon, enfin ok, mais au bout d'un moment, qu'est-ce que vous en pensez en fait, qu'est-ce qu'on doit penser? Et je lui ai dit, mais je fais pas semblant de pas savoir. C'est-à-dire que c'est si vous aviez un microscope et que vous pouviez aller fouiller au fond de mon cœur, vous trouveriez pas quelque chose que je n'aurais pas mis dans mon livre. J'ai tout mis dans mon livre. Simplement, je ne sais pas. J'ai à la fois une grande tendresse et une grande gratitude à l'égard de ce personnage de Max Brod que je trouve assez fascinant par ailleurs. Et à la fois, quand on lit ça, on ne peut quand même pas ne pas entendre ce qui est formulé. Comme je vous l'ai dit, il y a même deux versions, donc il a quand même laissé, au cas où la première n'était pas trouvée, il avait quand même prévu même l'autre. Parce que bon, je pense que la question en fait, qui est à l'arrière-plan et qui est absolument insoluble, c'est quel est le vrai désir de l'auteur, quoi. Quel est le vrai désir de Franz Kafka? Est-ce que, et c'est là-dessus que Brod va jouer pour justifier son geste. Il va dire, mais en fait, il faut comprendre l'inverse. C'est quelqu'un qui a, souvenez-vous, du journal, de la nuit du basculement, de cette naissance à la littérature qui le sauve. Souvenez-vous de cette lettre à Félix dans laquelle il lui dit « Je ne veux faire que ça. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et je vais tout sacrifier pour la littérature. » Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut écrire ça, c'est-à-dire vouloir sacrifier son existence à l'activité d'écrire parce qu'il n'y a que ça qui a du sens, et ne pas vouloir être lu? Voilà, donc je n'ai pas fini, mais je laisse la question ouverte pour la discussion d'après. En tout cas, dès la mi-juillet 1924, Max Brod fait paraître des premiers textes de Kafka. Et qu'est-ce qu'il fait paraître en premier, d'ailleurs, ce que je trouve quand même assez gonflé de sa part, et en même temps avec une certaine élégance aussi, peut-être. La première chose qu'il publie, c'est ça. Donc, il ne cherche pas à mettre la poussière sous le tapis ou à masquer la radicalité de son geste. Il publie ça en premier. Et je pense, puisque la question qu'on se posait depuis le début de la conférence, c'est que, finalement, qu'est-ce qui nous réunit, c'est-à-dire qu'est-ce qui a scellé ce mystère Kafka ? Je pense que là, quelque chose s'est scellé dans le fait qu'il ait écrit ce texte et dans le fait que Brod ait décidé de le faire paraître. Parce qu'il y a quelque chose du mythe Kafka qui est né tout de suite. C'est fascinant de se poser cette question. C'est fascinant de se dire qu'on va découvrir un auteur à travers le prisme et la décision de son ami qui lui-même a violé la volonté de l'auteur. C'est-à-dire que nous-mêmes, lecteurs, ça nous met dans une position d'accès à ces textes où normalement on ne devrait pas lire ça, en dehors des quelques nouvelles, et encore, parce que bon, il est quand même dans une volonté de destruction total, et dans la seconde version, il fait une liste des quelques textes que peut-être on peut sauver du feu, mais vraiment, quand même, je préférerais que tout soit brûlé. Enfin, voilà, y a, en tout cas, si un désir est exprimé, il est clair, et c'est celui d'une destruction. Donc, je pense que là, il y a quelque chose Voilà, je ne sais pas si on... En tout cas, sans Max Brod, on ne lirait pas Kafka aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais Max Brod a fabriqué Kafka. Et il a eu une véritable vision de la manière dont il allait s'y prendre pour nous faire passer Kafka. Quand je vous disais que j'avais aussi beaucoup de tendresse, il y a quelque chose qui me touche profondément chez Max Brod, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, il était écrivain lui-même. À partir de ce moment-là, il abandonne son œuvre pour se consacrer à celle de son ami. Donc, il comprend, d'ailleurs aujourd'hui, Max Brod, vous ne trouvez rien d'autre en français que sa biographie de Kafka. Il n'est resté que comme l'exécutant testamentaire de Kafka. Il n'est pas du tout resté comme écrivain ou comme dramaturge, ce qu'il a été aussi par ailleurs. Et je pense qu'il a eu cette lucidité, que je trouve assez touchante, de comprendre que s'il y avait une postérité possible, c'était dans l'œuvre de Kafka et pas dans la sienne. Et que donc son énergie, il fallait qu'il la mette dans le fait de faire passer cette œuvre et il le dit dès juillet 1924, c'est l'un des grands écrivains du XXe siècle. Donc c'est vraiment la vocation à ce moment-là qui est la sienne. L'heure tourne, et je ne vous ai pas tellement parlé de mon enquête, mais je vais juste vous en dire quelques mots, parce que mon enquête, elle commence justement avec ce personnage de Max Brod. À la mort de Kafka, on est donc à Prague en 1924. Max Brod, il réussit. Donc, il fait paraître premier tome des œuvres complètes de Kafka, déjà à Prague, dans les années 30, etc. Il y a déjà 3 tomes, dont les 3 grands romans, qui sont parus lorsque la Seconde Guerre mondiale approche. Et lorsque, en 1939, Max Brod se trouve à Prague, qui est envahi par les nazis. Max Brod, comme Franz Kafka, est juif, donc de cette génération de juifs dont on a parlé tout à l'heure, qui ont grandi un peu entre les trois langues, génération de l'assimilation, qui ne comprend pas tout de suite, parce qu'il ne se vit pas forcément comme étant juif en premier lieu, qui ne comprend pas tout de suite la menace qui pèse sur lui, et qui donc va attendre le tout dernier moment pour s'enfuir et pour quitter Prague pour la Palestine à l'époque, puisque l'État d'Israël n'est pas encore créé. On est en 1939. Max Brod part avec sa femme et il se trouve que la frontière est fermée derrière eux. Donc on sait aujourd'hui qu'ils ont pris le dernier train qui a quitté Prague à ce moment-là pour la Roumanie, d'où ensuite ils vont prendre un bateau et rejoindre Tel Aviv en 1939. À ce moment-là, il ne peut pas tout emporter, évidemment, avec lui, et il fait ce choix qui est magnifique, encore une fois, dans ce moment du sauvetage, il fait ce choix de laisser ses manuscrits à lui, et il emporte dans cette valise, dans ce dernier train, derrière lequel la frontière est fermée, les manuscrits de Franz Kafka, qu'il sauve, en quelque sorte, une seconde fois, à ce moment-là, en 1939. Voilà une image de Max arrivant en 1939 avec sa femme en Palestine. Commence à ce moment-là une autre page de l'histoire qui est extrêmement rocambolesque, qui nous emmène jusqu'aux années 2020, puisqu'il va y avoir des procès en Israël. Et ça, c'est vraiment l'histoire que je raconte dans mon livre. C'est le voyage que j'ai fait moi-même à Jérusalem pour aller voir ces manuscrits qui y sont aujourd'hui. Et donc, j'ai pu avoir entre mes mains ces manuscrits, j'ai pu rencontrer les différents avocats des procès qui vont avoir lieu, et j'ai pu aller voir l'appartement où Max Brod est arrivé, l'appartement où il a continué, en tout cas, jusqu'à sa mort. Et il est mort en 1968 en Israël. Max Brod a continué à consacrer sa vie à nos passés Kafka, à le faire traduire dans le monde entier, en le trahissant, peut-être, en tout cas, en nous léguant cette œuvre qui est d'une richesse infinie. Je voudrais qu'on ait un peu de temps pour peut-être échanger, alors je vais peut-être m'arrêter là. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette excellente conférence. Donc, si vous avez des questions.
Vous n'avez pas précisé ce que sont devenus les écrits de Max Brod lui-même.
Alors, les écrits, vous voulez dire ceux qui sont restés à Prague lorsqu'il est parti. Je crois qu'il en a fait rapatrier une partie après, un peu plus tard, mais que beaucoup de choses ont été perdues, évidemment, hein, détruites. Et puis bon, j'ai pas eu le temps de raconter, mais sur cette histoire de sauvetage, de disparition, d'incendie, etc., il y a aussi ce qui se passe à Prague et en Europe. Donc lui, Max Brod, quitte le continent européen et ainsi se sauve, en fait. Mais bon, Kafka, lui, est mort prématurément, comme on l'a compris, donc la question ne s'est pas posée pour lui. Mais il faut quand même bien redire que les trois sœurs de Franz Kafka sont mortes assassinées par les nazis, et que donc il est fort probable que si lui avait survécu à cette tuberculose et qu'il n'avait pas suivi Max Brod, il aurait été également déportés et assassinés dans les camps, et que il y a aussi des livres qui sont brûlés, comme vous le savez, dans des autodafés dans ces années-là. Et d'ailleurs, Max Brod va être, avant Kafka, mis sur liste noire des écrivains juifs, et des livres de Max Brod vont être brûlés à Berlin en 1940. Et ensuite, dans un second temps, Kafka va être lui aussi inscrit sur la liste des auteurs juifs, et donc des livres de Kafka ont été brûlés par des nazis dans des autodafés dans les années 40. Mais les manuscrits originaux, eux, ont pu être sauvés.
Vous n'avez pas beaucoup parlé de sa mère.
Et non, non. Julie Kafka, oui.
Quelle était quelle nationalité? Et alors, finalement, quelle était sa langue maternelle?
Alors, elle, elle est d'un milieu plus aisé que le père, qui donc, comme je l'ai dit, venait plutôt d'un milieu rural, etc. Elle est déjà dans un milieu juif germanophone. Disons qu'ils ont quelques générations d'écart. Je pense que la famille, donc c'est la famille Levy, Julie Levy, de son nom de jeune fille, qui appartenait déjà à une forme d'élite. Donc elle, si on prend le mot langue maternelle au sens premier, elle maîtrisait la langue allemande, mais à l'intérieur d'un foyer où, voilà, avec son mari, je pense qu'il parlait allemand, mais que tout ça était quand même assez mélangé, en fait, et complexe dans l'environnement linguistique. C'est vrai qu'on parle jamais assez de Julie Kafka, Julie Levy. On parle beaucoup plus du père à cause de la lettre au père aussi, qui fait partie des manuscrits qu'on a retrouvés et que Max Brod a fait publier, qui était une lettre donc que Kafka a écrite pour son père et qu'il ne lui a jamais envoyée.
Oui, excusez-moi, c'était pour savoir. Je me posais la question s'il a rompu avec son épouse parce que de par sa découverte de l'écriture, du coup, est-ce qu'on peut se demander, nous, en tant que lecteurs, que s'il a rompu grâce à la lecture, c'est parce que c'était son seul échappatoire?
L'écriture, c'était son seul échappatoire? Oui, je pense que l'écriture était son seul échappatoire et que c'était, en fait, c'était vraiment tout ce qui l'intéressait. C'est-à-dire que ce qui l'a intéressé le plus dans sa rencontre amoureuse avec sa fiancée, c'était de lui écrire, en fait. C'était de lui écrire des lettres. Comment ? Il se savait condamné. Ouais. Oui. Enfin, Félix, il aurait pu encore un peu y croire dans ces années-là. Mais oui, c'est vrai que la maladie a certainement jouer dans ces échecs conjugaux, oui, sûrement.
Il avait un problème aussi par rapport aux femmes et à la sexualité.
Oui, il avait certainement un problème. Ouais. Oui, oui. Je pense qu'il y a quelque chose dans le passage vraiment de l'écriture à la relation réelle qui, pour lui, était quasiment impossible. Sauf avec Dora. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, là-dessus, donc, je vous ai déjà parlé du roman sur la relation avec Dora, qui est un très beau roman. Autre conseil, si ça vous intéresse, il y a une très belle série d'émissions sur France Culture qui s'appelle Les femmes de Kafka, qui a été faite par Ruth Zilbermann, et vous avez un portrait. Alors, il y a aussi Otla Kafka, qui est une des sœurs, qui était la sœur préférée. Et donc, vous avez un portrait biographique de chacune de ces femmes, voilà, qui elles étaient avec Kafka, mais aussi en dehors de lui, qui elles étaient, comment elles l'ont rencontré, comment cette relation a échoué, qu'est-ce que ça leur a laissé aussi à elles dans leur vie après. C'est une très belle série d'émissions sur France Culture, Les femmes de Kafka. Et je précise aussi en me tournant un peu vers vous que la correspondance amoureuse de Kafka est tellement belle. Les lettres à Félice, les lettres à Milena sont tellement intenses que Kafka est redécouvert à travers ce biais-là par la très jeune génération comme une espèce d'icône romantique. Et donc, il y a eu des articles là-dessus l'année dernière, mais sur TikTok, il y a des filles qui sont complètement folles, amoureuses de Kafka, et qui lisent et relisent les lettres d'amour, et qui projettent un peu cette problématique aussi de la correspondance amoureuse qui, voilà, aujourd'hui, avec le numérique, est reposée d'une certaine façon. On retrouve beaucoup cette problématique-là du passage du virtuel au réel. Et en fait, c'est quelque chose que vous trouvez déjà dans la correspondance de Kafka, de manière très forte et très belle. Et donc, ça m'amuse, moi, qu'il soit redécouvert à travers ça.
Je voulais revenir sur la question éthique du non-respect des volontés testamentaires, sans prétendre avoir un avis plus autorisé que quiconque.
Vous avez le droit d'avoir un avis. Hein.
Mais simplement en me disant qu'en 2025, nous traversons une période de sacralisation du consentement qui donne un regard un peu particulier à cette question. Voilà, c'était juste oui,
C'est vrai. De toute façon, là, il n'y a pas de... Si on regarde les choses à travers la question du consentement, je pense qu'on fait immédiatement de Max Brod un traître, point. On ne peut pas faire autre chose. Encore une fois, bon, je vous ai lu le texte. Il n'y a pas... Mais on est aussi dans une époque, je pense, alors peut-être un peu avant d'en être arrivé à la question du consentement, on a quand même été dans une époque dans le rapport à la littérature de la sacralité de l'auteur. Et là, on se trouve à la fois... Je trouve que Kafka est un cas intéressant pour ça, parce que à la fois, on est fasciné par l'auteur du fait qu'on ait tous ses textes personnels, donc on connaît sa vie dans les moindres détails, on essaye d'interpréter chaque texte à l'aune de tel ou tel moment de sa vie, etc. Donc on est dans ce règne de l'auteur sur son œuvre. Et en même temps, quand on revient vraiment à l'histoire des manuscrits, là, c'est une hypothèse personnelle que j'avance, mais moi, j'ai l'impression qu'ils sont presque deux co-auteurs, en fait, avec Max Brod. Parce que Max Brod, non seulement décide, mais je veux dire, il décide de quel texte. Il décide, par exemple, de commencer par les romans, ce qui, à mon avis, a été déterminant. Il décide de commencer par le procès. Donc ça va imposer Kafka comme l'écrivain d'un rapport au pouvoir et à la politique. On est quand même à l'aube des années 30. C'est très malin de sa part. Et ça va ensuite déterminer le fait qu'on va interpréter Kafka comme un écrivain visionnaire. Max Brod a ça dans la tête. Quand on dit « il fait paraître le procès », moi je suis allée à Jérusalem, donc j'ai vu les manuscrits. Et je peux vous dire que c'est le chaos. Enfin, je veux dire, il n'a pas simplement pris un document Word numéroté de 1 à 200 qu'il a envoyé à un éditeur. Il avait face à lui des carnets, des liasses de feuilles, écrites dans un sens, écrites dans l'autre, et un bout ici, et un bout là. Et là, ça commençait comme étant une partie du journal, et puis ça continuait comme étant peut-être une scène du procès. Mais en fait, c'est peut-être une scène du château. Enfin, il y a une architecture aussi romanesque qui a été entièrement décidée par Max Brod, qui a donné des titres que Kafka n'avait pas donné, qui a chapitré les choses d'une manière que Kafka n'avait pas décidée. Voilà, la seule chose que Max Brod a laissée comme telle, c'est le caractère d'inachèvement. Puisque, à part l'Amérique, les deux grands romans, Le procès et Le château, sont, comme vous savez, inachevés. Donc ça, Max Brod l'a laissé comme ça. Tout le reste, il en a décidé. Quelle est sa part, en fait, dans tout ça aussi? Et est-ce que cette part qu'il a prise si active dans le fait de nous transmettre l'œuvre, finalement, ne lui donne pas droit à avoir eu cet accès?
On peut dire
franchement.
Oui, bien sûr, mais on peut dire que le contre-pied de cette trahison, c'est le fait qu'il a consacré sa vie à faire connaître le travail de
au
Kafka,
détriment de
sa propre œuvre. Ça me rappelait un peu, bon, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais le travail incroyable accompli par la femme de Théo Van Gogh pour faire connaître l'œuvre de Vincent, qui était parfaitement inconnu du milieu de la peinture jusqu'à son suicide. Et c'est la femme de Théo qui a, un peu comme Max Brod, trié, classé et s'est employée à faire connaître ce travail extraordinaire.
Il y a une phrase que j'avais prévu de dire et que j'ai pas dite. Attendez, parce qu'il s'en explique. Hein. Vous trouvez une préface du procès. Oui, une préface du procès en folio. Hein. Il y a une édition en folio du procès avec une préface de Max Brod qui s'en explique. Hein. Encore une fois, lui, en tout cas, il est sincère. Je veux dire, au moins là-dessus, on peut pas. Et il le justifie aussi, et c'est ça que je trouve aussi assez beau et assez convaincant dans son geste, c'est le regard du critique littéraire. C'est le regard sur la littérature, c'est-à-dire que là, il sort de l'amitié, trahir, pas trahir, être fidèle, etc. Et il parle de l'œuvre. Et dit, je peux pas, enfin moi j'ai ça entre les mains, je ne peux pas ne pas le faire paraître, c'est pas possible. Donc c'est comme s'il faisait entrer dans la scène, dans le questionnement, dans le dilemme, il faisait entrer aussi la postérité, la littérature et nous, d'une certaine façon, qui le lisons. On fait partie de cette scène, de ce questionnement, à partir du moment où on le lit. C'est qu'on accepte de le lire, donc on est tous complices. J'essaie de retrouver la phrase sur les trésors. Attendez, juste s'il y a une question en attendant que je.
Alors, on va peut-être prendre deux dernières questions et on se retrouvera au foyer après pour
séance de dédicace.
Il y a deux questions.
On va se retrouver au foyer. Je vais vous trouver là. Voilà. Il dit, si je me refuse en face de dispositions si catégoriquement exprimées à opérer ce geste que mon ami demande de moi, c'est que j'ai des raisons profondes. Donc là, j'avance un petit peu. J'ai découvert dans les écrits post-mortem de Kafka les plus merveilleux trésors. Je trouve ça quand même très touchant. Et cela a achevé de déterminer ma décision avec une netteté à laquelle il ne saurait rien opposer. Que d'œuvres qu'on n'a plus trouvées à ma cruelle déception dans l'appartement de Kafka ne m'avait-il pas déjà lues ? Qu'il y a des choses aussi qu'il n'a pas retrouvées. Tout au moins en partie, ou dans les grandes lignes. Que d'inoubliables pensées, que d'idées profondes et originales ne m'avait-il pas communiqué ? Dans la mesure où ma mémoire et mes forces me le permettront, rien de cela ne sera perdu.
Moi, je partage entièrement ce que vous venez de dire tout de suite, parce que je pense que ce n'est pas un acte de trahison, mais c'est un acte de désobéissance que seul un ami peut se permettre. Seul un ami qui connaît bien cette personne qui est Kafka et qui a très bien compris que Kafka veut que son œuvre soit connue et publiée. Donc, Max Brod a fait un acte de désobéissance civile, amicale et salvateur. Parce que, comme vous le dites, son œuvre s'est certainement passée dans un auto-da-fé. Donc, nous devons le remercier. Et moi, le mot trahison me paraissait un petit peu dur. C'est pour ça que je préfère parler de désobéissance.
Oui, c'est une très bonne idée. Je vais faire ça maintenant.
Non, non.
Voilà. Oui, c'est aussi. Voilà. Non, mais c'est aussi une histoire d'amitié. C'est vraiment profondément une histoire d'amitié. C'est ce qui est beau dans cette histoire. Et on peut pas remonter à la profonde volonté de Kafka. Personne ne le peut. Lui-même ne le pouvait pas probablement. Donc Max Brod se permet ce.
J'ai découvert dans une lecture que Kafka signifiait corneille en slave.
Kafka,
et sur certaines photos, il y a un peu ce regard d'oiseau un peu inquiet de
celle corneille. Où il est à Prague.
Oui, le mot corneille qui correspond au nom de Kafka.
Là non, là.
Non, au début.
Le Pajak.
Voilà, ouais.
Ouais. Ouais.
Voilà. Merci.
Merci. Merci beaucoup.
Non, moi je voudrais dire que à la même époque, un très grand écrivain, Apollinaire, a eu aussi une relation épistolaire avec Madeleine Pagès, qui est beaucoup moins connue que Lou, et il l'a rencontrée en janvier 1915 dans le train, et il ne l'a pas vu, ils se sont juste rencontrés. Elle habitait au Oran, lui il était au front, et ils ont eu une correspondance épistolaire absolument incroyable. Et cette correspondance a été lue pour la première fois ici à Jean Villard, parce que au moment d'une répétition, ils ont découvert. Quelqu'un a dit, voilà, moi, j'ai la correspondance de Madeleine Pagès, parce qu'on avait celle d'Apollinaire, mais pas celle de Madeleine Pagès. Elle a été lue pour la première fois ici. Voilà. Et en fait, ils se sont retrouvés au rang en décembre 1915, et là, en quelques semaines, la relation s'est arrêtée. Donc, c'est un petit peu la même chose que pour Kafka. Voilà.
Merci. Merci. On se retrouve en foyer pour un pot et une séance de dédicace. Ah, ouais, mais j'avais dit que c'était les deux dernières, désolée.